Nous tous qui sommes là, souvenons-nous que nous sommes frères et sœurs, invités au même festin, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, à nous tous sont données la grâce et la paix du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Seigneur, tu es présent parmi nous, c'est toi qui nous rassemble, c'est toi qui nous unis. Que ton amour nous habite, que ta présence nous éclaire, que ta parole nous fortifie. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique 51-10, Dieu nous appelle. Vous le trouverez dans les livrets. Nous louons Dieu avec le psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, de tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Je louerai ton amour et ta fidélité, psaume 89, strophes 1 et 3, la page 102. Voilà. Prenez place. Nous prions. Et je vous propose de prendre le refrain, le réponse suivant, Délivre-nous, Seigneur, le moment venu. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité, de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et nous restons assis pour chanter la deuxième strophe du 12-04, « Tout-Puissant est mon berger ». Dans notre faiblesse sans cesse présente, dans nos doutes d'aujourd'hui, dans nos manques de chaque jour, éclate clairement le pardon de Dieu. Vivant en homme pardonné, en femme pardonnée, Dieu nous accueille et nous pardonne en Jésus-Christ. Et nous nous levons pour chanter « Ô ma joie et mon espérance » 61-37. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comme un enfant qui sert son père, quatrième strophe du 44-03. Prenez place. Deux lectures pour aujourd'hui. La première, c'est celle que j'ai choisie du livre de la Genèse, chapitre 50. Et la seconde, celle qui nous est proposée par le lectionnaire pour ce jour, donc Matthieu 18. Avant de lire, nous prions. Écouter, c'est être à l'affût du cri du cœur et de celui de l'âme, là où Dieu nous parle. Écouter, c'est entendre en laissant résonner en nous ce qui jamais ne peut être saisi, ce qui toujours s'échappe. La parole de Dieu, cette parole que nous allons maintenant découvrir en ouvrant les Écritures. Donne-nous, Seigneur, de les comprendre. Amen. Donc, la première lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 50, les versets 15 à 21.
Fin de la vie de Joseph. On ne lit pas le titre, mais c'est ça.
Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé ?» Ils demandèrent à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph. De tes frères, de grâce, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, ils t'ont causé bien du mal. Mais de grâce, pardonne maintenant le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. » Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et dire « Nous voici tes esclaves !» Jésus leur répondit. Joseph leur répondit « Ne craignez point. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en faire du bien. Conservez la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas. Je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. » Il les réconforta et leur parla cœur à cœur. Joseph habita en Égypte, lui et la maison de son père. Joseph vécut 110 ans et vit la troisième génération des fils d'Éphraïm. De plus, les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Dieu interviendra en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Puis, Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël. « Lorsque Dieu interviendra en votre faveur, vous ferez remonter mes ossements d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un cercueil en Égypte. Matthieu 18.
Si tu l'as là, Matthieu 18.
C'était 21, je ne sais plus. 21. Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois. » Ce compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il lui remboursait ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il lui remboursait tout ce qu'il lui devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »
Cantique 35-14, troisième strophe, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Prenez place. On a souvent, et moi le premier, tendance à se moquer de Pierre et de ses gros sabots. Mais là, cette fois-ci, il faut reconnaître qu'il ne manque pas d'ambition, ni de lucidité. Ambitieux parce que pardonner 7 fois, c'est déjà un défi. Habituellement, on est plutôt sur du « je te pardonne pour 7 fois ». Ça sonne un peu pareil, mais c'est pas du tout le même genre, le même sens. Une fois, 2 fois, déjà c'est un effort. Alors 7, difficile d'y arriver sans avoir l'impression de se faire avoir, d'être trop bon, trop faible, voire velléitaire, mou. Mais c'est raisonnable parce que quitte à choisir un chiffre symbolique, il aurait pu prendre 12, ce qui a la même valeur symbolique mais une valeur numérique plus élevée. Déjà 7, c'est beaucoup, alors 12. Donc Pierre est ambitieux mais raisonnable. Et si je ne connaissais pas la suite de l'histoire, j'aurais dit « Banco, allons-y, c'est une bonne idée, je te soutiens Pierre ». Mais voilà, il y a la suite, et la suite est une parabole. Une parabole tout à fait déraisonnable. Mais pourquoi voudriez-vous qu'une parabole soit raisonnable? C'est justement son côté fou qui nous interroge. Tout comme je considère le fait de chercher à rendre un miracle rationnellement explicable comme une perte de temps, je trouve que vouloir rendre une parabole raisonnable, c'est ne pas comprendre ce qu'est une parabole. Une parabole doit choquer notre imagination, ou du moins perturber notre logique. Dans la quasi-totalité des paraboles narratives, celles qui ne sont pas juste une description, ou une image, une évocation, mais qui racontent une histoire, il y a un moment où cela dérape. Un moment où on se dit non, ça c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'abandonne pas 99 brebis pour en chercher une. On n'envoie pas son fils quand les messagers précédents se sont fait tabasser. Ici, le point d'échoppement, c'est la démesure, la disproportion. Les rapports de force entre les créanciers et les débiteurs ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne la première dette, nous avons un roi et un serviteur. Pour la deuxième dette, nous avons 2 serviteurs. Alors, ce n'est pas tout à fait égaux, mais enfin, on est dans le même ordre de grandeur. Peu ou prou une égalité. De même, les sommes en jeu. Alors, on a un peu perdu la valeur de ces sommes. C'est un peu compliqué. Mais elles sont incomparables. Si on voulait faire une sorte d'équivalence avec des euros, alors c'est un peu risqué, mais ça donne un ordre d'idée. On pourrait dire que la dette de 10 000 talents, donc la première dette, équivaudrait à peu près à 2,5 milliards d'euros. Pas 2 millions, 2 milliards. Il y a des nombres qu'il est difficile, voire impossible d'imaginer. Avez-vous une idée du temps qu'il vous faudrait pour compter jusqu'à 2,5 milliards, dans l'hypothèse où vous compteriez, purement théorique, vous compteriez un chiffre par seconde sans vous arrêter? Alors, dit autrement, qu'est-ce que 2,5 milliards de secondes, font comme temps dans des unités plus... Vous avez une idée? Quelqu'un a une idée? Non? 79 ans. Donc, vous imaginez 79, enfin 80 ans, imaginez 80 ans, imaginez les secondes qui composent ces 80 ans et mettez 1 euro par seconde. Pas possible, ça dépasse la capacité, ce sont des valeurs abstraites. Voilà, ça c'est la dette du premier serviteur. C'est impossible à imaginer. Et la valeur que cela représente, il est impossible d'imaginer la valeur de ce que ça représente, mais aussi on n'arrive pas à imaginer comment le serviteur a fait pour dépenser une telle somme. Et surtout, comment il a pu l'emprunter? C'est pas possible. Et surtout, comment il compte rembourser? Parce que même avec ça paraît mal parti. Alors la seconde dette, en comparaison, pourrait être évaluée à 4 000 euros. Certes, c'est une somme, mais c'est une valeur avec laquelle on est plus à l'aise. Même si on ne les a pas forcément sur soi ou sur son compte en banque, on voit grosso modo ce que c'est que 4 000 euros. En gros, ça fait 3 mois de SMIC net. en gros. Et si on refait le jeu des secondes, on obtient 1 heure, 6 minutes, 40 secondes, à comparer avec les presque 80 ans de l'autre. Rien à voir. Hein. Bon, j'arrête de vous assommer avec des chiffres. Bon. Bien sûr, cette parabole peut avoir une explication très simple, très rapide. Il n'est guère contestable, je pense, que le roi de la parabole figure Dieu, et que par conséquent, la dette astronomique est notre dette à nous envers Dieu, tandis que celle plus modeste est celle que nos contemporains pourraient avoir envers nous. D'ailleurs, vous le savez sans doute, mais dans la version de Matthieu du Notre Père, la phrase « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » se lit comme « Remets-nous nos dettes comme nous remettons nos dettes à nos débiteurs ». Difficile de ne pas faire un lien. Le parallèle est flagrant. Dans le passage d'aujourd'hui, comme dans la prière, la dette figure les fautes commises par nous envers Dieu et celles commises par les autres à notre égard. La morale serait donc claire. Il faut pardonner si l'on veut être pardonné. Cette interprétation est globalement juste, ce qui signifie qu'elle est fausse dans le détail. Sur deux points au moins. La première, c'est que c'est justement une morale. Fais ceci pour te faire bien voir de Dieu et tu recevras. Dans l'Évangile, c'est rarement une bonne piste. Toute lecture moralisatrice de l'Écriture est faussée. Vous me trouverez peut-être un peu trop péremptoire dans cette affirmation. Eh bien oui, j'exagère. Ah. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Oui, c'est une citation, vous la retrouverez si vous voulez. La seconde, c'est que 100 pièces d'argent, c'est pas nul. Si Jésus avait vraiment voulu dire une dette nulle, insignifiante, il aurait pris une somme moindre, une ou deux pièces. Ça aurait en plus renforcé la disproportion. Non, la dette du second serviteur n'est dérisoire qu'en comparaison avec celle remise par le roi. Elle n'est pas insignifiante par elle-même. Si d'aventure, Dieu seul sait pourquoi, je devais prêter 4000 euros à l'un d'entre vous, soyez assurés que j'aimerais les retrouver. Vous l'avez prévenu. Remettre cette dette n'est pas forcément simple pour le premier serviteur. Ça lui aurait coûté. Mais évidemment, ce à quoi fait l'allusion la parabole ne concerne pas des histoires financières, mais évoque des dettes symboliques. Un tel m'a fait un tort, il me doit quelque chose. Et les torts dont parle Jésus ne sont pas des dommages insignifiants, contrariants sur l'instant, mais sans portée réelle. Bousculade, parole maladroite, passage dans une file, alors ça je ne supporte pas. Mais passer par-dessus de ces genres de choses relève moins du pardon que de l'hygiène de vie. Sinon, on ne peut plus vivre. La parabole fait allusion aux torts sérieux, aux choses qu'il coûte de pardonner. Alors peut-être que vous êtes comme moi, je ne sais pas, vous me direz, assez souvent en disant la fameuse phrase du Notre Père, « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », je me dis in petto, je suis mal parti. Ou alors, j'espère qu'il sera plus indulgent que je ne le suis. Hein, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue là. Et justement, dans la parabole, il y a une chose qui me chiffonne à chaque fois. C'est le revirement du roi dans sa colère. Dans sa colère, dit le texte biblique, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Moi, ça me pose un problème. Est-ce qu'il ne lui avait pas remis sa dette? Est-ce qu'il peut revenir ainsi sur sa parole? Vous me direz, c'est un roi, il fait bien ce qu'il veut. D'accord, mais ça ne me paraît pas satisfaisant comme explication. Pour moi, si cet effacement de dette peut être révoqué, c'est qu'il n'était pas entièrement valide. Il fallait remplir une condition, ce que n'avait pas fait le premier serviteur. Alors vous me direz, un pardon sous condition, fallait-il qu'il pardonne à son tour? Ben non, parce que là on revient sur de la morale, pardonner pour être pardonné. La seule condition était que le serviteur accepte cette remise de dette. Or, son comportement prouvait qu'il ne l'avait pas intégré. Ce pardon lui était resté extérieur, ne l'avait pas bouleversé, ne l'avait pas converti. Il ne l'avait pas compris, il ne l'avait pas accepté. Nos incapacités à pardonner ne relèvent pas de la morale, mais de la vie spirituelle. Nous avons peine à intégrer pleinement c'est-à-dire au-delà d'un discours pieux, le pardon reçu. Ce n'est qu'en le recevant que pardonner devient possible. Je ne dis pas facile, je dis possible. Si le pardon et le salut ne sont pas la même chose, ils relèvent pourtant tous les deux de la même dynamique, celui de la vie, enfin celle de la vie. Le salut est plus large que le pardon, mais il l'intègre. Pardonner aux autres leurs fautes envers nous, leur remettre leurs dettes, ne nous donne ni le salut ni le pardon de Dieu. Cela atteste en revanche simplement que nous sommes capables d'en vivre. De même que nous ne pratiquons pas le bien pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, de même nous sommes invités à pardonner, non pas pour être pardonnés, mais parce que nous sommes pardonnés. En d'autres termes, il ne s'agit pas de proclamer haut et fort « Dieu m'a pardonné malgré tout ce que j'ai fait », ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs, mais il faut vivre ce pardon, non en parole seulement, mais en vérité, c'est-à-dire en pardonnant à autrui. Dieu nous pardonne, accepterons-nous ce pardon avec tout ce que cela implique, ou resterons-nous dans une logique comptable qui risque fort de nous être d'ailleurs désavantageuse, in fine. Et puis, si ça se trouve, les torts qui nous ont été infligés ont pu, pour certains, faire de nous ce que nous sommes, tels ceux commis par ses frères contre Joseph. La parabole nous invite à nous libérer de la prison de nos dettes. J'aime imaginer que le mauvais serviteur peut encore changer et retrouver sa liberté en libérant son compagnon. Notre système de rancune nous tient tous, débiteurs et créanciers, nous tient tous prisonniers. Ainsi, Jésus répond à Pierre, le pardon n'est pas une question de nombre de fois, même élevé. Le pardon relève de la vie, et c'est pour cela qu'il ne peut pas être limité. Car j'imagine que même les plus littéralistes des chrétiens ne s'imaginent pas qu'il faille pardonner 490 fois et que la 491e fois, c'est bon, on peut garder rancune. On peut pas être dispensé parce qu'on a accompli son devoir. Le pardon ne relève pas d'aucune logique comptable. Et peut-être même qu'il ne relève d'aucune logique tout court. C'est simplement un appel à la vie. Amen. Seigneur, accorde-moi d'aimer, cantique 46-02, page 714. Nous chanterons la première et la troisième strophe. J'ai l'impression qu'il n'était pas bien connu, celui-là. Bien, je vous reste debout pour la confession de la foi. Nous croyons en Dieu, le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes, tous les humains, vivent ensemble, comme frères et sœurs d'une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque être humain et la société, l'Église, l'État, la conciliation, à l'unité, la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les humains, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. 45-16, mon seul abri, c'est toi. prenez place. L'apôtre dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui étant riche s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous soyez rendus riches. Ô Christ qui t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal et de faire de nous un peuple qui t'appartienne au propre, accueille avec bonté notre offrande comme l'humble témoignage de notre amour. Amen.
Bonjour à chacun. Merci. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de fleurs aujourd'hui. C'est parce que vendredi, il y a eu la célébration pour la création qui a eu lieu dans ce temple, la célébration œcuménique. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fleurs. Et puis, se sont rajoutées les fleurs qui ont été apportées ce matin par Jean-Michel, et puis d'autres personnes. Voilà, donc merci pour toute cette beauté de la création. Anne Ruth nous a accompagnés à l'orgue. Nadine m'a accompagné pour l'accueil. Et merci à Vincent pour le culte. Voilà, cette semaine, chorale mardi à 19h15. Mercredi, nous prions de 18 à 19h. Une salutation, une bonne fête à tous nos amis juifs, puisque ce mois-ci, ils ont Rosh Hashanah du 15 au 17 septembre, Yom Kippour du 24 au 26 septembre et Sukkot le 29 septembre. Donc ça fait beaucoup de fêtes pour eux. Voilà. Le week-end prochain, le CP se réunit dans le Chalet familial Schöndorfer, merci à Colette de ton accueil. Voilà, donc c'est un week-end pour préparer l'année, mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Donc voilà, donc nous serons là-haut le week-end prochain. Et puis il y a la sortie de l'Ordre de Malte. Est-ce que tu veux prendre la parole ou je l'annonce comme ça, simple? Tu veux dire quelque chose? Donc c'est le 30 septembre de 14h à 17h. Donc je vous invite à vous rapprocher soit de Monique, soit de Claudia pour vous inscrire à cette sortie. Et il y a Norbert qui a quelque chose à nous communiquer.
Vendredi à 9h30, conseil d'administration du CERA.
Vendredi 9h30, conseil d'administration. Merci.
Nous allons maintenant partager le pain et le jus de raisin. Tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont les bienvenus, quelle que soit leur appartenance ecclésiale, quel que soit leur sentiment d'indignité, quelles que soient les dettes qu'ils ont à remettre ou à être remises. Vous êtes les bienvenus. Produit du terroir, rugueux comme l'existence, issu d'un travail intense et d'une grâce immense, du pain qui nourrit et du vin qui réunit et réjouit, condensé des besoins humains. Du pain et du vin pour mémoire de la trace de Dieu dans notre histoire. En Jésus, il a ouvert un chemin de vie et soumis à la loi de l'Esprit, il y a déposé une semence au creux des besoins humains, le vin d'espérance, promesse de sa présence, sceau d'une éternelle alliance. Du pain et du vin rappellent de la croix, de la victoire sur la mort et de l'amour sur la loi du plus fort. Appel à la foi, lors du partage saint, production à l'instant, au face-à-face avec le vivant. Dieu présent au peuple des croyants et à tout être cherchant, en tout lieu, dans tous les temps, depuis 2000 ans. Du pain et du vin pour ce pays, pour vous. Du vin et du vin de ce pays, pour vous. Amen. Nous prions. Pour ce pain et pour ce vin sur la table, signe de l'immense simplicité des choses, pour ton Fils Jésus, le Christ, ferment du monde et de nous-mêmes, nous te rendons grâce, Seigneur, en tissant de nos corps et de nos voix le chant d'une louange sans mesure. Car sans mesure est ta tendresse, sans mesure ta lumière et l'espérance ouverte dans le Christ ressuscité. Il marche dans notre fragilité pour en dévoiler la promesse. Il traverse nos peurs pour y révéler ta présence. Et chaque fois que sa parole se met à parler en nous, chaque fois revient le souffle et rebondit la joie. Le dernier mot n'est pas à la mort, il est à toi, qui es la vie. Et aussi bien, c'est avec tout ce qui vit dans l'espace et dans le temps, c'est avec la soif de tous les hommes et de les femmes d'aujourd'hui, que nous laissons monter du plus profond de nos cœurs le chant qui nous garde vivants. Seigneur Jésus, par ton esprit. Cantique 24-13. Seigneur, viens maintenant par ton esprit habiter au plus profond de nos cœurs et aide-nous de discerner dans le signe du pain et du vin ta présence parmi nous. Voici comment notre Seigneur a institué son repas. Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Le sang qui garantit l'alliance de Dieu, il est versé pour que beaucoup soient pardonnés. Je suis le pain de vie, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Venez, car tout est prêt. Et je vous invite à prendre votre cantique. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, rompu pour nous et pour tous les peuples. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ, versée pour nous et pour tous les peuples. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais toi tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est dans cette assurance que nous osons te dire avec audace et confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la loi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Thank you. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, tu nous as reçus à ta table, à la table de ton Fils. Tu nous as nourris par ta présence. Nourris notre foi, augmente notre amour les uns pour les autres. Permets que nous travaillions dans le monde à ton service et pour ta gloire, unis dans la paix et dans la joie de l'Esprit Saint. Exauce-nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, tu es près de nous, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Accueille nos requêtes et nos intercessions. Dieu de miséricorde, donne Dieu de miséricorde dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants. Prends soin de tous ceux qui y souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, de ceux qui nous te nommons dans le secret de nos cœurs, de ceux qui ont demandé le secours de nos prières. Dieu, Maître du monde, toi qui as fait la destinée des nations, nous te prions pour notre pays. Assiste en leur charge ceux qui ont autorité parmi nous. Dirige aussi les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que nous ayons quelque temps pour te connaître et pour te servir dans la justice et la liberté. Dieu saint et bon, toi qui as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler dans l'unité tes enfants dispersés, veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa détresse, mets fin à ses divisions, dissipe ses craintes, affermis sa foi. Seigneur Dieu, tu entends nos prières et tu les exauces au-delà de nos espérances. Accorde aux humains de ce temps de te connaître et à ton Église de te servir dans l'obéissance de la foi, dans l'attente du jour où tu seras tout en tous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous propose de préparer le dernier cantique, le 36-30, deuxième strophe, que nous chanterons après la bénédiction. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne recherchez ce qui est bien devant tous les humains. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des braises de lumière sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Le pardon, la paix et l'amour vous sont donnés en abondance. Allez dans la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Tu nous appelles à t'aimer.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.